Bonjour, nous allons parler du Nouveau Testament aujourd'hui, qui est crédible pour plusieurs raisons. La première raison qui me fait croire dans les quatre évangiles, c'est que ce qui est écrit est vivable. On peut expérimenter les choses qui y sont écrites. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas un écrit qui essaye de nous faire croire que Jésus et ses apôtres étaient des super-héros. Dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on présentait toujours les dieux. Là, non, ils ne sont pas présentés du tout comme des super-héros. Jésus assume le meilleur et le pire de l'humanité. Quand vous voyez ses généalogies, il descend de personnes... Il y en a qui sont des saints, mais il y en a d'autres qui sont des pécheurs, par exemple Jacob, le tricheur. Il descend aussi d'un homme qui a vendu son frère aux Égyptiens, pas joli joli. Il sort d'une famille inceste. Vous avez qu'à lire l'histoire de Tamar, vous cherchez dans votre Bible. Vous tapez, si vous ne savez pas comment faire, vous tapez sur Google Tamar, Bible, et vous tombez sur les textes. Il descend aussi d'un sorcier. Vous avez qu'à lire l'histoire de Nashon, le fils de Aminadab, ou Dab, je ne sais plus, d'une prostituée, Rahab, d'une femme non juive, Ruth, d'un poète, roi et meurtrier, David, d'un sacrificateur infantile, vous lirez l'histoire de... infanticide, pardon, vous lirez l'histoire de la case, d'un idolâtre, Manassé, bref. Le Nouveau Testament n'essaye pas de nous faire croire que Jésus était une personne complètement... avec une descendance... des ancêtres super saints, merveilleux. Les catholiques ont essayé de nous faire croire que la Vierge Marie était née Immaculée Conception. C'est encore une de leurs bêtises. Non. Elle était une femme née normalement d'un papa et d'une maman, point. Ce qui n'est pas mal, mais faire croire qu'elle est née comme ça, comme Jésus, par le Saint-Esprit, non, faut pas exagérer. Alors, les gens qui viennent vous raconter que vous avez besoin de délivrance à cause du vécu, du passé de vos ancêtres. Eh bien, je vais rester poli. Je vais rien dire, mais c'est une ânerie. En plus, Dieu ne met pas la faute des parents sur les enfants. Alors, leur histoire de délivrance pour les choses ancestrales, non, je suis pas d'accord. Si vous y croyez, ben croyez-y, vous faites comme vous voulez, hein. Moi ça ne me change rien. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu, et il est venu par une simple femme, Marie, qui était merveilleuse. Mais voilà quoi, ce serait pas... Et Jésus, il est le début de la nouvelle création du monde et du genre humain. C'est lui qui nous a sauvés, il a fait de nous des nouvelles créatures. Et quand il est né, il y a trois mages qui sont venus l'adorer, des savants astronomes orientaux, et ils sont que trois, il n'y a pas leur nom dans la Bible, hein, ça encore c'est une invention des religieux. Et pourquoi trois ? Parce que ça évoque les trois fils de Noé. Les trois fils de Noé sont les trois régions de la terre. On peut dire ça dans Genèse 5, 32. J'espère que je ne vais pas me tromper de verset. Parce que ça se peut. Des fois, je dis un verset, puis c'est pas celui-là. Parce que j'ai tellement de bouts de papier, de choses. Voilà, c'est écrit là. Genèse chapitre 5, verset 32. Ce sont là les familles des enfants de Noé, selon les diverses nations qui en sont sorties, et c'est de ces familles que se sont formés tous les peuples de la terre après le déluge. Donc voilà, trois familles. Sem, on n'a pas besoin de faire un dessin, les Sémites, Cam, Japhet. Japhet, c'est plutôt les Occidentaux, je vais dire un truc qui va énerver certains Africains, c'est les Blancs, quoi. Et ces mages étaient prophétiquement des rois, selon Psaume 72, 10. C'est pas écrit qu'ils étaient des rois, mais prophétiquement, ils étaient des rois. Vous lirez le texte. Parce que, pourquoi ? Parce que trois enfants d'Israël avaient refusé de s'incliner devant un roi païen, Daniel 3, 16, vous vous rappelez, Shadrach, Meshach et Abednego. Et là, eh bien, Dieu a voulu que trois rois s'inclinent devant un enfant d'Israël. Alors, il est né à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth, et cela a accompli la prophétie d'Ésaïe 11.1. En fait, Ésaïe 11.1 ne parle pas de Nazareth. Pourtant, c'est dans la Bible. Hein. C'est pour accomplir la prophétie d'Ésaïe qui dit qu'il vivra à Nazareth. Mais c'est pas écrit Nazareth dans le texte. Et c'est là qu'il faut comprendre la pensée juive. Et ça n'est pas... C'est pas de notre culture. Il faut qu'on apprenne. Dans Ésaïe, il est écrit un rejeton. Il sortira un rejeton. Il est parlé de Jésus. Et rejeton s'écrit Netzer, exactement comme Nazareth. C'est la même chose. Vous voyez? Voilà pourquoi Ésaïe dit ça. Et c'est pourquoi les apôtres reprennent ça en disant, et puis tous les gens l'appelaient le Nazaréen, le Netzer, Matthieu 26, 71 par exemple, le Nazaréen, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazaréen, de Netzer, les rejetons quoi. Jésus est le roi, mais pas le roi de tous, son royaume est présent là où Satan, l'esprit de ce monde, et de nos pensées de péché, des pensées pacamineuses, voilà un mot savant, hein, ne sont plus honorées et suivies. Son royaume est là où Dieu est confessé et où on est amoureuse, où on obéit amoureusement à Dieu. C'est là où est son royaume, il n'est pas ailleurs. Donc vous voyez la terre, dans quel état elle est. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que la terre, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Hein, voilà. Jésus est le roi éternel, Luc 1, 33. Il est le roi des Juifs, Luc 2, 2. Il est le roi de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, Luc 2, 21, 5, d'Israël, Jean 1, 49. Et en fait, il est le roi de tous ceux qui sont ses sujets, ses disciples, qui le suivent, qui font ce qu'il dit. Jésus s'est humilié, il s'est humilié en prenant la forme humaine, c'est Dieu qui s'est humilié en prenant une forme humaine, c'était Dieu parmi nous, c'est ce que signifie Emmanuel. Et bien que sans péché, il est écrit, ça c'est écrit dans 1 Pierre 2, 22, bien que sans péché, il s'est fait baptiser, il a reçu le baptême de conversion. Et Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, mais il a dit il faut qu'on fasse ce qui est juste. Alors il l'a baptisé quand même. Et il est sorti des eaux du Jourdain comme on sort de la boue. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, d'un point de vue géographique, cet endroit, là où Jésus a été baptisé, et je suis allé là-bas, j'ai vu cet endroit. C'est un endroit qui se trouve à moins 400 mètres au-dessous de la mer. On calcule toujours par rapport à la mer, on dit c'est le point zéro, puis après on calcule, on dit voilà. Et il a fait cela dès le début de son ministère, moins 400, pour nous montrer, à nous croyants, qui nous évitait la mort dans l'embouchure de la mer morte, parce que le Jourdain se jette dans la mer morte, c'est-à-dire que il est parti de moins 400 en dessous de la mer morte pour nous empêcher d'aller nous jeter dans la mer morte, c'est-à-dire dans la mort. La mer morte se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit où Jésus a été baptisé. Oh, mes frères et sœurs, ceux qui veulent ignorer ces choses-là, les ignorent. Un vrai disciple de Jésus, il y croit, c'est tout. Et cela fixe sa foi et son amour pour Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Le disciple de Jésus ne tombe pas dans les griffes de l'accusateur, parce que Dieu l'élève en l'enlevant, en enlevant son péché. Dieu nous élève vers lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas tout le monde, de ceux qui viennent à lui, n'est-ce pas? L'accusateur, le diable. Ce mot accusateur a une définition dans le peuple juif qu'on ne connaît pas forcément dans les milieux évangéliques. Accusateur, dans l'idée juive, c'est mangeur de morceaux. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Vous vous rappelez de ce texte? Et le chrétien, qui n'aime pas ses frères et sœurs, devient un diable. Galates 5, 13 à 15, je crois qu'on pourrait le lire. Je vais noter là aussi. Galates 5, 13, 15. Galates 5, 13, 15. Car vous êtes appelés, mes frères, à un état de liberté. Ayez soin seulement que cette liberté ne vous serve pas d'occasion pour vivre selon la chair, selon vos pensées, selon votre imagination, selon vos désirs. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par une charité spirituelle, par un amour spirituel, car toute la loi est renfermée dans ce seul précepte, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Ça se trouve dans Lévitique, je crois, 19-18, si je me souviens bien. Et il continue, il dit, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne vous consumiez les uns les autres. Vous voyez, se mordre, le diable est celui qui mord, qui bouffe les morceaux. Et celui qui n'aime pas, il est comme le diable, il bouffe les morceaux. Voilà. Faire attention. Le diable, c'est un mangeur de morceaux. Un diviseur, il coupe sa viande. Le diviseur, c'est le péché. La division, c'est le péché. C'est le diable. Et il faut que nous restions bien unis autour de la parole de Jésus, gardant une foi simple dans ce qu'il dit, et c'est alors que rien ne pourra nous nuire. On ne peut pas dire « rien ne peut me nuire parce qu'un prophète me l'a dit ». Non. On ne peut pas dire « rien ne peut me nuire parce que la Bible le dit ». Non. Rien ne peut nuire à ceux qui marchent avec Dieu. Pour les autres, il n'y a rien de garanti. Alors voilà, soyez sages, que Dieu vous bénisse, et à dimanche. Au revoir.